Jack London, le talon de fer. Chapitre 1, mon aigle. La brise d'été agite les pins géants et les rides de la Wild Water clapotent en cadence sur ces pierres moussues. Des papillons dansent au soleil et de toutes parts frémit le bourdonnement berceur des abeilles. Seule au sein d'une paix si profonde, je suis assise, pensive et inquiète. L'excès même de cette sérénité me trouble et la rend irréelle. Le vaste monde est calme, mais du calme qui précède les orages. J'écoute et guette de tous mes sens le moindre indice du cataclysme imminent. Pourvu qu'il ne soit pas prématuré, ou pourvu qu'il n'éclate pas trop tôt. Note. La seconde révolte fut, dans une large mesure, l'œuvre d'Ernest Everard, bien qu'il ait naturellement coopéré avec les meneurs européens. L'arrestation et l'exécution d'Everard constituèrent l'événement marquant du printemps de 1932. Mais il avait si minutieusement préparé ce soulèvement que ses complices purent réaliser ses plans sans trop de confusion ni de délai. C'est après l'exécution d'Everard que sa veuve se retira à Wake Robin Lodge, petite habitation dans les montagnes de la Sonoma, en Californie. Fin de la note. Mon inquiétude s'explique. Je pense sans trêve et ne puis m'empêcher de penser. J'ai vécu si longtemps au cœur de la mêlée que la tranquillité m'oppresse, et mon imagination revient malgré moi à ce tourbillon de ravages et de morts qui va se déchaîner sous peu. Je crois entendre les cris des victimes. Je crois voir, comme je l'ai vu dans le passé, toute cette tendre et précieuse chair meurtrie et mutilée, toutes ces âmes violemment arrachées de leur noble corps et jetées à la face de Dieu. Note, allusion évidente à la première révolte, celle de la commune de Chicago. Fin de la note. Pauvres humains que nous sommes, obligés de recourir au carnage et à la destruction pour atteindre notre but, pour introduire sur terre une paix et un bonheur durable. Et puis je suis toute seule. Quand ce n'est pas de ce qui doit être, je rêve de ce qui a été, de ce qui n'est plus. Je songe à mon aigle, qui battait le vide de ses ailes infatigables et prit son essor vers son soleil à lui, vers l'idéal resplendissant de la liberté humaine. Je ne saurais rester les bras croisés pour attendre le grand événement qui est son œuvre, bien qu'il ne soit plus là pour en voir l'accomplissement. C'est le travail de ses mains, la création de son esprit. Note, sans contredire Avis Everard, on peut remarquer qu'Everard fut simplement l'un des chefs nombreux et habiles qui projetèrent la seconde révolte. Aujourd'hui, avec le recul des siècles, nous sommes en mesure d'affirmer que, même s'il eût survécu, le mouvement n'en aurait pas moins désastreusement échoué. Fin de la note. Il y a dévoué ses plus belles années, il lui a donné sa vie elle-même. Voilà pourquoi je veux consacrer cette période d'attente et d'anxiété au souvenir de mon mari. Il y a des clartés que, seul au monde, je puis projeter sur cette personnalité, si noble qu'elle ne saurait être trop vivement mise en relief. C'était une âme immense. Quand mon amour se purifie de tout égoïsme, je regrette surtout qu'il ne soit plus là pour voir l'aurore prochaine. Nous ne pouvons échouer. Il a construit trop solidement, trop sûrement. De la poitrine de l'humanité terrassée, nous arracherons le talon de fer maudit. Au signal donné, vont se soulever partout les légions des travailleurs, et jamais rien de pareil n'aura été vu dans l'histoire. La solidarité des masses laborieuses est assurée, et, pour la première fois, éclatera une révolution internationale aussi vaste que le monde. Note, la seconde révolte fut véritablement internationale. C'était un plan trop colossal pour être élaboré par le génie d'un seul homme. Dans toutes les oligarchies du monde, les travailleurs étaient prêts à se soulever au signal donné. L'Allemagne, l'Italie, la France et toute l'Australie étaient des pays de travailleurs, des États socialistes, prêts à aider la révolution des autres pays. Ils le firent vaillamment. Et c'est pourquoi, lorsque la seconde révolte fut écrasée, ils furent écrasés eux aussi par l'Alliance mondiale des oligarchies. Et leurs gouvernements socialistes furent remplacés par des gouvernements oligarchiques. Fin de la note. Vous le voyez, je suis obsédé de cette éventualité que, depuis si longtemps, j'ai vécu jour et nuit dans ses moindres détails. Je ne puis en séparer le souvenir de celui qui en était l'âme. Tout le monde sait qu'il a travaillé dur et souffert cruellement pour la liberté. Mais personne ne le sait mieux que moi, qui, pendant ces 20 années de trouble où j'ai partagé sa vie, ai pu apprécier sa patience, son effort incessant, son dévouement absolu à la cause pour laquelle il est mort, voilà 2 mois seulement. Je veux essayer de raconter simplement comment Ernest Everard est entré dans ma vie, comment son influence sur moi a grandi jusqu'à ce que je sois devenu une partie de lui-même, et quel changement prodigieux il a opéré dans ma destinée. De cette façon, vous pourrez le voir par mes yeux et le connaître comme je l'ai connu moi-même, à part certains secrets trop doux pour être révélés. Ce fut en février 1912 que je le vis pour la première fois, lorsque, invité à dîner par mon père, il entra dans notre maison à Berkeley. Note: John Cunningham, père Davis Everard, était professeur à l'Université d'État de Berkeley, en Californie. Il avait pour spécialité les sciences physiques, mais se livrait à beaucoup d'autres recherches originales, et était réputé comme un savant très distingué. Ses principales contributions à la science furent ses études sur l'électron et surtout son œuvre monumentale intitulée « Identité de la matière et de l'énergie » où il a établi sans contestation possible que l'unité ultime de matière et l'unité ultime de force sont une seule et même chose. Avant lui, cette idée avait été entrevue, mais non démontrée, par Sir Oliver Lodge et autres explorateurs du nouveau champ de la radioactivité. Les villes de Berkeley, d'Oakland et quelques autres, situées dans la baie de San Francisco, sont reliées à cette dernière capitale par des bacs qui font la traversée en quelques minutes. Elles forment virtuellement une agglomération unique. Fin de la note. Et je ne puis pas dire que ma première impression lui ait été bien favorable. Nous avions beaucoup de monde, et au salon, où nous attendions que tous nos hôtes fussent arrivés, il fit une entrée assez piteuse. C'était le soir des prédicants, comme père disait entre nous, et certainement Ernest ne paraissait guère à sa place au milieu de ces gens d'église. D'abord, ses habits étaient mal ajustés. Il portait un complet de drap sombre et, de fait, il n'a jamais pu trouver un vêtement de confection qui lui alla bien. Ce soir-là, comme toujours, ses muscles soulevaient l'étoffe, et, par suite de sa carrure de poitrine, le paletot faisait des quantités de plis entre les épaules. Il avait le cou d'un champion de boxe, épais et solide. Note, en ce temps-là, les hommes avaient coutume de se battre à coups de poing pour remporter des prix. Quand l'un d'eux tombait sans connaissance ou était tué, l'autre prenait l'argent. Fin de la note. Voilà donc, me disais-je, ce philosophe social, ancien maréchal ferrant, que père a découvert. Et certainement, avec ses biceps et cette gorge, il avait le physique du rôle. Je le classai immédiatement comme une sorte de prodige, un blind Tom de la classe ouvrière. Note, blind Tom, musicien nègre aveugle qui eut un instant de vogue aux États-Unis. Fin de la note. Ensuite, il me donna une poignée de main. L'étreinte était ferme et forte, mais surtout il me regardait hardiment de ses yeux noirs, trop hardiment à mon avis. Vous comprenez, j'étais une créature de l'ambiance, et à cette époque-là, mes instincts de classe étaient puissants. Cette hardiesse m'eût paru presque impardonnable chez un homme de mon propre monde. Je sais que je ne pus m'empêcher de baisser les yeux, et, quand il m'eut dépassé, ce fut avec un soulagement réel que je me détournai pour saluer l'évêque Morehouse, un de mes favoris. Homme d'âge moyen, doux et sérieux, avec l'aspect et la bonté d'un Christ et un savant par-dessus le marché. Mais cette hardiesse que je prenais pour de la présomption était en réalité le fil conducteur qui devrait me permettre de démêler le caractère d'Ernest Everard. Il était simple et droit, il n'avait peur de rien, il se refusait à perdre son temps en manière conventionnelle. « Vous m'aviez plu tout de suite, m'expliqua-t-il longtemps après, et pourquoi n'aurais-je pas rempli mes yeux de ce qui me plaisait ?» Je viens de dire que rien ne lui faisait peur. C'était un aristocrate de nature, malgré qu'il fût dans le camp ennemi de l'aristocratie. C'était un surhomme. C'était la bête blonde décrite par Nietzsche, et, en dépit de tout cela, c'était un ardent démocrate. Note, Friedrich Nietzsche, le philosophe fou du XIXe siècle de l'ère chrétienne, qui entrevit de fantastiques éclairs de vérité, mais dont la raison, à force de tourner dans le grand cercle de la pensée humaine, s'enfuit par la tangente. Fin de la note. Occupé que j'étais à recevoir les autres invités, et peut-être par suite de ma mauvaise impression, j'oubliais presque complètement le philosophe ouvrier. Il attira mon attention une fois ou deux au cours du repas. Il écoutait la conversation de divers pasteurs, et je vis briller dans ses yeux une lueur d'amusement. J'en conclus qu'il avait l'humeur plaisante et lui pardonnait presque son accoutrement. Cependant, le temps passait, le dîner s'avançait, et pas une fois il n'avait ouvert la bouche, tandis que les révérends discouraient à perte de vue sur la classe ouvrière, ses rapports avec le clergé et tout ce que l'Église avait fait et faisait encore pour elle. Je remarquai que mon père était contrarié de ce mutisme. Il profita d'une accalmie pour l'engager à donner son opinion. Ernest se contenta de hausser les épaules, et, après un bref je n'ai rien à dire, se remit à croquer des amandes salées. Mais mon père ne se tenait pas facilement pour battu. Au bout de quelques instants, il déclara « Nous avons parmi nous un membre de la classe ouvrière. Je suis certain qu'il pourrait nous présenter les faits à un point de vue nouveau, intéressant et rafraîchissant. Je veux parler de M. Everard. » Les autres manifestèrent un intérêt poli et pressèrent Ernest d'exposer ses idées. Leur attitude envers lui était si large, si tolérante et bénigne, qu'elle équivalait à de la condescendance pure et simple. Je vis qu'Ernest le remarquait et s'en amusait. Il promena lentement les yeux autour de la table et j'y surpris une étincelle de malice. « Je ne suis pas versé dans la courtoisie des controverses ecclésiastiques, » commença-t-il d'un air modeste. Puis il sembla hésiter. Des encouragements se firent entendre. « Continuez, continuez !» Et le docteur Hammerfield ajouta « Nous ne craignons pas la vérité qu'il y a chez n'importe quel homme, pourvu qu'elle soit sincère. » « Vous séparez donc la sincérité de la vérité ?» demanda vivement Ernest en riant. Le docteur Hammerfield resta un moment bouche bée et finit par balbutier. « Le meilleur d'entre nous peut se tromper, jeune homme, le meilleur d'entre nous !» Un changement prodigieux s'opéra chez Ernest. En un instant, il devint un autre homme. « Eh bien alors, laissez-moi commencer par vous dire que vous vous trompez tous. Vous ne savez rien, et moins que rien, de la classe ouvrière. Votre sociologie est aussi erronée et dénuée de valeur que votre méthode de raisonnement. » Ce n'est pas tant ce qu'il disait que le ton dont il le disait, et je fus secouée au premier son de sa voix. C'était un appel de clairon qui me fit vibrer tout entière, et toute la tablée en fut remuée, éveillée de son ronronnement monotone et engourdissant. Qu'y a-t-il donc de si terriblement erroné et dénué de valeur dans notre méthode de raisonnement, jeune homme ? Demanda le docteur Hammerfield, et déjà son intonation trahissait un timbre déplaisant. « Vous êtes des métaphysiciens, vous pouvez prouver n'importe quoi par la métaphysique, et cela fait, n'importe quel autre métaphysicien peut prouver, à sa propre satisfaction, que vous avez tort. Vous êtes des anarchistes dans le domaine de la pensée, et vous avez la folle passion des constructions cosmiques. Chacun de vous habite un univers à sa façon, créé avec ses propres fantaisies et ses propres désirs. Vous ne connaissez rien du vrai monde dans lequel vous vivez, et votre pensée n'a aucune place dans la réalité, sauf comme phénomène d'aberration mentale. Savez-vous à quoi je pensais tout à l'heure, en vous écoutant parler à tort et à travers ? Vous me rappeliez ces scolastiques du Moyen-Âge qui discutaient gravement et savamment combien d'anges pourraient danser sur une pointe d'aiguille. Messieurs, vous êtes aussi loin de la vie intellectuelle du XXe siècle que pouvait l'être, voici une dizaine de mille ans, quelques sorciers peaux rouges faisant des incantations dans une forêt vierge. » En lançant cette apostrophe, Ernest paraissait vraiment en colère. Sa figure empourprée, ses sourcils froncés, les éclairs de ses yeux, les mouvements du menton et de la mâchoire, tout dénonçait une humeur agressive. Pourtant, c'était là simplement une de ses manières de faire. Elle excitait toujours les gens. Son attaque foudroyante les mettait hors d'eux-mêmes. Déjà, nos convives s'oubliaient dans leur maintien. L'évêque Morehouse, penché en avant, écoutait attentivement. Le visage du docteur Hammerfield était rouge d'indignation et de dépit. Les autres aussi étaient exaspérés, et certains souriaient d'un air de supériorité amusé. Quant à moi, je trouvais la scène très réjouissante. Je regardai père et crus qu'il allait éclater de rire en constatant l'effet de cette bombe humaine qu'il avait eu l'audace d'introduire dans notre milieu. « Vos termes sont un peu vagues, » interrompit le docteur Hammerfield. « Que voulez-vous dire au juste en nous appelant métaphysiciens ?»« Je vous appelle métaphysicien, » reprit Ernest, « parce que vous raisonnez métaphysiquement. Votre méthode est l'opposé de celle de la science, et vos conclusions n'ont aucune validité. Vous prouvez tout et vous ne prouvez rien. » Et il n'y a pas deux d'entre vous qui puissent se mettre d'accord sur un point quelconque. Chacun de vous rentre dans sa propre conscience pour s'expliquer l'univers et lui-même. Entreprendre d'expliquer la conscience par elle-même, c'est comme si vous vouliez vous soulever en tirant sur vos propres tiges de bottes. « Je ne comprends pas, » intervint l'évêque Morehouse. « Il me semble que toutes les choses de l'esprit sont métaphysiques. » Les mathématiques, les plus exactes et les plus profondes de toutes les sciences, sont purement métaphysiques. Le moindre processus mental du savant qui raisonne est une opération métaphysique. Sûrement, vous m'accorderez ce point. Comme vous le dites vous-même, vous ne comprenez pas, répliqua Ernest. Le métaphysicien raisonne par déduction, en prenant pour point de départ sa propre subjectivité. Le savant raisonne par induction, en se basant sur les faits fournis par l'expérience. Le métaphysicien procède de la théorie aux faits. Le savant va des faits à la théorie. Le métaphysicien explique l'univers d'après lui-même. Le savant s'explique lui-même d'après l'univers. Dieu soit loué de ce que nous ne sommes pas des savants. Murmura le docteur Hammerfield avec un air de satisfaction béate. Qu'êtes-vous donc alors? Nous sommes des philosophes. Vous voilà parti, dit Ernest en riant. Vous avez quitté le terrain réel et solide et vous vous lancez en l'air avec un mot en guise de machine volante. De grâce, redescendez ici-bas et veuillez me dire à votre tour ce que vous entendez exactement par philosophie. « La philosophie est… » Le docteur Hammerfield s'éclaircit la gorge. « Quelque chose qu'on ne peut définir de façon compréhensive que pour les esprits et les tempéraments philosophiques. Le savant qui se borne à fourrer le nez dans ses éprouvettes ne saurait comprendre la philosophie. » Ernest parut insensible à ce coup de pointe, mais il avait l'habitude de retourner l'attaque contre l'adversaire. Et c'est ce qu'il fit tout de suite, le visage et la voix débordant de fraternité bénigne. En ce cas, vous comprendrez certainement la définition que je vais vous proposer de la philosophie. Toutefois, avant de commencer, je vous somme ou d'en relever les erreurs ou d'en observer un silence métaphysique. La philosophie est simplement la plus vaste de toutes les sciences. Sa méthode de raisonnement est la même que celle d'une science particulière quelconque ou de toutes. Et c'est par cette même méthode de raisonnement, la méthode inductive, que la philosophie fusionne toutes les sciences particulières en une seule et grande science. Comme dit Spencer, les données de toute science particulière ne sont que des connaissances partiellement unifiées. Tandis que la philosophie synthétise les connaissances fournies par toutes les sciences. La philosophie est la science des sciences, la science maîtresse, si vous voulez. Que pensez-vous de cette définition? Très honorable, très digne de crédit, murmura gauchement le docteur Hammerfield. Mais Ernest était sans pitié. Prenez-y bien garde, dit-il. Ma définition est fatale à la métaphysique. Si, dès maintenant, vous ne pouvez pas indiquer une fêlure dans ma définition, tout à l'heure vous serez disqualifié pour avancer des arguments métaphysiques. Vous devrez passer votre vie à chercher cette paille et rester muet jusqu'à ce que vous l'ayez trouvée. Ernest attendit. Le silence se prolongeait et devenait pénible. le docteur Hammerfield était aussi mortifié qu'embarrassé. Cette attaque à coups de marteau de forgeron le démontait complètement. Son regard implorant fit le tour de la table, mais personne ne répondait pour lui. Je surpris père en train de pouffer derrière sa serviette. Il y a une autre manière de disqualifier les métaphysiciens, reprit Ernest quand la déconfiture du docteur fut bien avérée. C'est de les juger d'après leurs œuvres. Qu'ont-ils fait pour l'humanité, sinon tisser des fantaisies aériennes et prendre pour Dieu leurs propres ombres? J'accorde qu'ils ont ajouté quelque chose aux gaietés du genre humain, mais quel bien tangible ont-ils forgé pour lui? Ils ont philosophé, pardonnez-moi ce mot de mauvais aloi, sur le cœur comme siège des émotions, et pendant ce temps-là, des savants formulaient la circulation du sang. Ils ont déclamé sur la famine et la peste comme fléau de Dieu, tandis que des savants construisaient des dépôts d'approvisionnement et assainissaient les agglomérations urbaines. Ils décrivaient la terre comme centre de l'univers, cependant que des savants découvraient l'Amérique et sondaient l'espace pour y trouver les étoiles et les lois des astres. En résumé, les métaphysiciens n'ont rien fait, absolument rien fait pour l'humanité. Ils ont dû reculer pas à pas devant les conquêtes de la science. Et à peine les faits scientifiquement constatés avaient-ils renversé leurs explications subjectives qu'ils en fabriquaient de nouvelles sur une échelle plus vaste pour y faire rentrer l'explication des derniers faits constatés. Voilà, je n'en doute pas, tout ce qu'ils continueront à faire jusqu'à la consommation des siècles. Messieurs, les métaphysiciens sont des sorciers. Entre vous et l'Esquimau, qui imaginait un dieu mangeur de graisse et vêtu de fourrure, il n'y a d'autre distance que quelques milliers d'années de constatation de faits. Cependant, la pensée d'Aristote a gouverné l'Europe pendant 12 siècles, énonça pompeusement le docteur Ballingford, et Aristote était un métaphysicien. Le docteur Ballingford fit des yeux le tour de la table et fut récompensé par des signes et des sourires d'approbation. « Votre exemple n'est pas heureux, » répondit Ernest. « Vous évoquez précisément une des périodes les plus sombres de l'histoire humaine, ce que nous appelons les siècles d'obscurantisme. Une époque où la science était captive de la métaphysique, où la physique était réduite à la recherche de la pierre philosophale, où la chimie était remplacée par l'alchimie et l'astronomie par l'astrologie. Triste domination que celle de la pensée d'Aristote. » Le docteur Ballingford eut l'air vexé, mais bientôt son visage s'éclaira et il reprit. Même si nous admettons le noir tableau que vous venez de peindre, vous n'en êtes pas moins obligé de reconnaître à la métaphysique une valeur intrinsèque, qu'elle a pu faire sortir l'humanité de cette sombre phase et la faire entrer dans la clarté des siècles postérieurs. « La métaphysique n'eut rien à voir là-dedans, » répliqua Ernest. « Quoi ? » s'écria le docteur Hammerfield. « Ce n'est pas la pensée spéculative qui a conduit au voyage de découverte ?»« Ah, cher monsieur, » dit Ernest en souriant, « je vous croyais disqualifié. Vous n'avez pas encore trouvé la moindre paille dans ma définition de la philosophie et vous demeurez en suspens dans le vide. Toutefois, c'est une habitude chez les métaphysiciens et je vous pardonne. Non, je le répète, la métaphysique n'a rien eu à faire là-dedans. Des questions de pain et de beurre, de soie et de bijoux, de monnaie d'or et de billons, et, incidemment, la fermeture des voies de terre commerciales vers l'Hindoustan, voilà ce qui a provoqué les voyages de découverte. À la chute de Constantinople, en 1453, les Turcs ont bloqué le chemin des caravanes de l'Indus, et les trafiquants de l'Europe ont dû en chercher un autre. Telle fut la cause originelle de ces explorations. Christophe Colomb naviguait pour trouver une nouvelle route des Indes, Tous les manuels d'histoire vous le diront. On découvrit incidemment de nouveaux faits sur la nature, la grandeur et la forme de la terre, et le système de Ptolémée jeta ses dernières lueurs. Le docteur Hammerfield émit une sorte de grognement. « Vous n'êtes pas d'accord avec moi ?» demanda Ernest. « Alors dites-moi en quoi je fais erreur. »« Je ne puis que maintenir mon point de vue, » répliqua aigrement le docteur Hammerfield. « C'est une trop longue histoire pour que nous l'entreprenions ici. » « Ici, il n'y a pas d'histoire trop longue pour le savant, » dit Ernest avec douceur. « C'est pourquoi le savant arrive quelque part, c'est pourquoi il est arrivé en Amérique. » « Je n'ai pas l'intention de décrire la soirée tout entière, bien que ce me soit une joie de me rappeler chaque détail de cette première rencontre, de ces premières heures passées avec Ernest Everard. » La mêlée était ardente, et les ministres devenaient cramoisis, surtout quand Ernest leur lançait les épithètes de philosophe romantique, projecteur de lanternes magiques et autres du même genre. À tout instant, il les arrêtait pour les ramener aux faits. « C'est un fait, camarade, un fait irréfragable !» proclamait-il en triomphe chaque fois qu'il venait d'asséner un coup décisif. Il était hérissé de faits. Il leur lançait des faits dans les jambes pour les faire trébucher. Il leur dressait des faits en embuscade. Il les bombardait de faits à la volée. « Toute votre dévotion se réserve à l'autel du fait !» lança le docteur Hammerfield. « Le fait seul est Dieu, et M. Everard est son prophète !» paraphrasa le docteur Ballingford. Ernest, souriant, fit un signe d'acquiescement. « Je suis comme l'habitant du Texas, » dit-il. Et, comme on le pressait de s'expliquer, il ajouta, « Oui, l'homme du Missouri dit toujours, « Il faut me montrer ça !» Mais l'homme du Texas dit, « Il faut me le mettre dans la main !» D'où il appert qu'il n'est pas métaphysicien. À un autre moment, comme Ernest venait d'affirmer que les philosophes métaphysiciens ne pourraient jamais supporter l'épreuve de la vérité, le docteur Hammerfield tonna soudain. « Quelle est l'épreuve de la vérité, jeune homme? Voulez-vous avoir la bonté de nous expliquer ce qui a si longtemps embarrassé des têtes plus sages que la vôtre ?»« Certainement, » répondit Ernest avec cette assurance qui les mettait en colère. « Les têtes sages ont été longtemps et pitoyablement embarrassées pour trouver la vérité, parce qu'elles allaient la chercher en l'air, là-haut. Si elles étaient restées en terre ferme, elles l'auraient facilement trouvée. Oui, ces sages auraient découvert qu'eux-mêmes éprouvaient précisément la vérité dans chacune des actions et pensées pratiques de leur vie. « L'épreuve, le critérium !» répéta impatiemment le docteur Hammerfield. « Laissez de côté les préambules. Donnez-le-nous, et nous deviendrons comme des dieux. » Il y avait dans ces paroles et dans la manière dont elles étaient dites un scepticisme agressif et ironique que goûtaient en secret la plupart des convives, bien que l'évêque Morehouse en parût peiné. Le docteur Jordan l'a établi très clairement, répondit Ernest. Note, professeur célèbre, président de l'université de Stanford, fondée par dotation. Fin de la note. Voici son moyen de contrôler une vérité. Fonctionne-t-elle? Y confierez-vous votre vie? Bah! Ricana le docteur Hammerfield. Vous oubliez dans vos calculs l'évêque Berkeley. En somme, on ne lui a jamais répondu. Note. Moniste idéaliste qui embarrassa longtemps les philosophes de son temps en niant l'existence de la matière, mais dont les raisonnements subtils finirent par s'écrouler quand les nouvelles données empiriques de la science furent généralisées en philosophie. Fin de la note. Le plus noble métaphysicien de la confrérie, dit Ernest en riant, mais assez mal choisi comme exemple. On peut prendre Berkeley lui-même à témoin que sa métaphysique ne fonctionnait pas. Du coup, le docteur Hammerfield se mit tout à fait en colère, comme s'il eût surpris Ernest en train de voler ou de mentir. « Jeune homme !» s'écria-t-il d'une voix claironnante. « Cette déclaration va de pair avec tout ce que vous avez dit ce soir. C'est une assertion indigne et dénuée de tout fondement. » « Me voilà aplati, » murmura Ernest avec componction. « Malheureusement, j'ignore ce qui m'a frappé. Il faut me le mettre dans la main, docteur. »«
Parfaitement, parfaitement, » balbutia le docteur Hammerfield. « Vous ne pouvez pas dire que l'évêque Berkeley a témoigné que sa métaphysique n'était pas pratique. Vous n'en avez pas de preuves, jeune homme, vous n'en savez rien. Elle a toujours fonctionné. »
« La meilleure preuve à mes yeux que la métaphysique de Berkeley ne fonctionnait pas, c'est que Berkeley lui-même, » Ernest reprit tranquillement haleine, « avait l'habitude invétérée de passer par les portes et non par les murs. C'est qu'il confiait sa vie à du pain et du beurre et du rôti solide. C'est qu'il se faisait la barbe avec un rasoir qui fonctionnait bien.
Mais ce sont là des choses d'actualité, » cria le docteur, « et la métaphysique est une chose de l'esprit. »
« Et c'est en esprit qu'elle fonctionne ?» demanda doucement Ernest. L'autre fit un signe d'assentiment. « Et en esprit, une multitude d'anges peuvent danser sur la pointe d'une aiguille ?» continua Ernest d'un air pensif. « Et il peut exister un dieu poilu et buveur d'huile en esprit ?» car il n'y a pas de preuve du contraire en esprit. Et je suppose, docteur, que vous vivez en esprit.
« Oui, mon esprit, c'est mon royaume, » répondit l'interpellé.
Ce qui est une autre façon d'avouer que vous vivez dans le vide. Mais vous revenez sur terre, j'en suis sûr, à l'heure des repas, ou quand il survient un tremblement de terre. Me direz-vous que vous n'auriez aucune appréhension pendant un cataclysme de ce genre, convaincu que votre corps insubstantiel ne peut être atteint par une brique immatérielle? Instantanément, et d'une façon tout à fait inconsciente, le docteur Hammerfield porta la main à sa tête, où une cicatrice était cachée sous ses cheveux. Ernest était tombé par hasard sur un exemple de circonstance. Pendant le grand tremblement de terre, le docteur avait failli être tué par la chute d'une cheminée. Note, le grand tremblement de terre qui détruisit San Francisco en 1906. Fin de la note. Tout le monde éclata de rire. « Eh bien, » demanda Ernest, quand la gaieté se fut calmée, « j'attends toujours les preuves du contraire. » Et, dans le silence universel, il ajouta « Pas mal ce dernier de vos arguments, mais ce n'est pas encore cela. » Le docteur Hammerfield était temporairement hors de combat, mais la bataille continua dans d'autres directions. De point en point, Ernest défiait les ministres. Lorsqu'il prétendait connaître la classe ouvrière, il leur exposait à son sujet des vérités fondamentales qu'il ne connaissait pas et les mettait au défi de le contredire. Il leur servait des faits, toujours des faits, réprimait leurs élans vers la lune et les ramenait en terrain solide. Comme toute cette scène me revient, je crois l'entendre, avec son intonation de guerre, les foyers d'un faisceau de fées dont chacun était une verge cinglante. Et il était impitoyable. Il ne demandait pas quartier et n'en accordait pas. Je n'oublierai jamais la raclée finale qu'il leur infligea. Vous avez reconnu ce soir, à plusieurs reprises, par vos aveux spontanés ou vos déclarations ignorantes, que vous ne connaissiez pas la classe ouvrière. Je ne vous en blâme pas, car comment pourriez-vous la connaître? Vous ne vivez pas dans les mêmes localités. Vous pâturez dans d'autres prairies
avec la classe capitaliste.
Et pourquoi agiriez-vous autrement?
C'est la classe capitaliste qui vous paie, qui vous nourrit, qui vous met sur le dos les habits que vous portez ce soir.
En retour, vous prêchez à vos patrons les bribes de métaphysique qui leur sont particulièrement agréables et qu'ils trouvent acceptables parce qu'elles ne menacent pas l'ordre social établi.
À ces mots, il y eut une rumeur de protestation autour de la table.
« Oh, je ne mets pas en doute votre sincérité, » poursuivit Ernest.
« Vous êtes sincère. Ce que vous prêchez, vous le croyez. C'est en cela que consiste votre force et votre valeur aux yeux de la classe capitaliste. Si vous songiez à modifier l'ordre établi, votre prédication deviendrait inacceptable pour vos patrons et vous vous feriez mettre à la porte. De temps en temps, quelques-uns d'entre vous sont ainsi congédiés. N'ai-je pas raison ?
Note. Durant cette période, plusieurs ministres furent renvoyés de l'Église pour avoir prêché des doctrines inacceptables, surtout quand leur prédication se teintait de socialisme. Fin de la note. Cette fois, il n'y eut pas de dissentiment. Tous gardèrent un mutisme significatif, à l'exception du docteur Hammerfield qui déclara
« C'est quand leur manière de penser est erronée qu'on leur demande leur démission. »
Ce qui revient à dire quand leur manière de penser est inacceptable.
Aussi, je vous le dis en toute sincérité, continuez à prêcher et à gagner votre argent.
Mais pour l'amour du ciel, laissez la classe ouvrière tranquille. Vous n'avez rien de commun avec elle. Vous appartenez au camp ennemi.
Vos mains sont blanches parce que d'autres travaillent pour vous. Vos estomacs sont gavés et vos ventres ronds.
Ici, le docteur Ballingford fit une légère grimace et tout le monde regarda sa corpulence prodigieuse.
On dirait que depuis des années, il n'avait pas vu ses pieds.
Et vos esprits sont bourrés d'un mortier de doctrine qui sert à cimenter les arcs-boutants de l'ordre établi. Vous êtes des mercenaires, sincères, je vous l'accorde, mais au même titre que l'étaient les hommes de la garde suisse sous l'ancienne monarchie française. Soyez fidèles à ceux qui vous donnent le pain et le sel, et la solde. Soutenez de vos prédications les intérêts de vos employeurs. Mais ne descendez pas vers la classe ouvrière pour vous offrir en qualité de faux guide. Vous ne sauriez vivre honnêtement dans les deux camps à la fois. La classe ouvrière s'est passée de vous. Croyez-moi, elle continuera à s'en passer. Et en outre, elle s'en tirera mieux sans vous qu'avec vous.